Sœur Erika en Don Camillo, quelques farces et autres pièces. Waouh ! On peut dire que le look de Don Camillo était revisité. La gigantesque sœur Erika de Jésus crucifié, qui incarnait le célèbre prêtre tiré des récits de Garéchi, portait une soutane d'autrefois ridiculement trop courte, la taille moyenne ayant beaucoup progressé en deux générations. D'épaisses chaussettes noires tire-bouchonnaient sur ses chevilles. Le presbytère du curé valait lui aussi le détour. Couverture à carreaux multicolores sur le lit, paravent orné des images pieuses les plus kitsch et les plus langoureuses qu'il soit possible de trouver, sachets de pâte d'une certaine marque Don Camillophile, à en croire une certaine publicité, reposant sur la table. Des espaces verts avaient été ménagés avec de la mousse, des fleurs blanches et des branches d'ifs naturels délimitant un circuit où un vélo d'appartement de couleur jaune était censé se déplacer à vive allure. Le décor de l'église avait permis de concrétiser les hallucinations les plus psychédéliques. L'autel, recouvert d'une nappe rose, était orné de cierges de couleurs variées et de superbes fleurs en plastique véritable. Sur l'altier piédestal d'une horloge privée de son cadran pour la cause, une madone de bois polychrome dominait la scène, l'auréole délicieusement accentuée par des guirlandes d'ampoules clignotantes, plus à leur aise en général sur les sapins. La statue presque grandeur nature tenait à la main un nombre non négligeable de chapelets et des roses artificielles à durée de vie illimitée. Un faux baptistère florentin de style Renaissance, pas vilain du tout, avait même été déniché au fond d'un grenier et ajouté au reste. Le plastique dans lequel il était ciselé s'alliait harmonieusement avec l'ensemble. Enfin, un confessionnal dont les grilles étaient réalisées en authentique grillage de poulailler monastique complétait l'illusion. À vrai dire, et à la décharge de la communauté, les récits mis en scène avaient des prétentions spirituelles et intellectuelles très limitées par rapport à certains spectacles joués sous ces mêmes voûtes de pierre, spectacles tirés des écrits des grands pontes de la littérature chrétienne ou de mystiques dûment canonisés et munis de leur doctorat, de docteur de l'Église. C'était ce jour plutôt l'amusement qui prédominait, renforcé par le décalage entre la vie réelle quotidienne des actrices en question et les faits mis en scène. Scène de bagarre, où l'adversaire, humain, pas spirituel, reste au tapis. Clameurs et slogans, invectives pittoresques agrémentées de poings levés, mégots à la bouche, superbes barbes mal rasées, etc. Sœur Colombe, vous vous êtes fait mal ? Demandait candidement dans le public sœur Clémence en me voyant au tapis alors que j'avais reçu une dizaine de coups de poing et de prises de théâtre. Il est toujours amusant de découvrir ses consœurs sous un jour inhabituel. Je revois encore d'autres prestations théâtrales. Par exemple, sœur Marie-Sophie de Jésus, voûtée sous le poids du malheur et pivotant lentement, les mains en avant, pour incarner le vieux Tobie aveugle de la Bible. Bouleversant. Je crois la contempler encore dans le rôle du Christ, frappant à la porte de l'une de ses épouses du Carmel, qui se méfie tant son apparence est minable et loqueteuse. Je revois de même sœur Clotilde de la Vierge, déguisée en Charles de Foucault. Son visage fin et émacié se prêtait parfaitement au rôle. On en oubliait la couleur claire de ses yeux, différente des iris noirs de l'ermite. Pour m'amuser, je l'avais persuadée de rester maquillée pour la récréation. Sa barbe dessinée au bouchon brûlé la métamorphosait tellement que l'on sursautait devant cet homme au regard vif qui nous fixait impudemment, assis là parmi nous, au milieu de notre assemblée claustrale uniquement féminine. Anomalie et violation de la clôture. Pour revenir aux historiettes de Don Camillo, un baigneur figurait un bébé réel que tenait la femme de Pépone, alias sœur Clotilde de la Vierge, enveloppé dans un grand châle rouge. Il y eut un épilogue inattendu à l'affaire du bébé. Une fois la pièce terminée, les actrices novices ont remis leurs vêtements usuels. Nous sommes alors sortis, très détendus et euphoriques, dans le couloir. C'était jour de licence, innocent temps festif au Carmel. Quelques fantaisies inhabituelles étaient autorisées, dont celle de parler et de rire même sous la voûte des cloîtres. L'acoustique y est excellente d'ailleurs. Toutes les portes, y compris celle du chœur démonial tout proche, étaient ouvertes à cause du temps superbe. Nous respirions à plein poumon. Au bout d'un moment, j'ai vu accourir la mère prieure, Myriam de l'Enfant Jésus, le visage rouge, suant et l'air alarmé. Sœur Colombe, des gens peuvent vous entendre en dehors de la clôture. L'église est ouverte. Pas peu fier de ma prestation dans la pièce, j'étais en train de refaire le bébé qui pleure d'une façon plus vraie que nature. On s'y serait trompé. L'acoustique exceptionnelle répercutait ma voix à tous les échos. Nous avons arrêté de rire. Une pièce minuscule où étaient rangés, voire entassés, les déguisements et les accessoires de théâtre répondait au nom patois d'Affutio. J'en avais été nommé responsable. Et j'avoue que je portais à la réalisation des spectacles et des costumes une passion qui pouvait être excessive. Si la mère prieure était entrée dans ma cellule pendant une certaine période, elle serait tombée, sur un casque et une cuirasse de légionnaire romain, deux boucliers peints en trompe-l'œil, un glaive de carton et son fourreau orné, une perruque de laine à tresses et trois ou quatre décors peints en aquarelle, tous réalisés de ma main en grand secret pour une pièce future. Sans compter les costumes. Des projecteurs munis de filtres de couleurs variées et de la musique choisie par notre maestro devaient compléter la scène. J'avais voulu mettre en scène le remarquable journal de prison de Sainte Perpétue, martyr pour le Christ, avec ses frères et sœurs dans la foi, en l'an 205. Le blé semé à Carthage, tel était le nom de ma fresque vivante. Les premiers chrétiens sortaient du mythe et de la figure de rhétorique pour prendre chair devant nos yeux et nous délivrer leur message. Savoureuse imagerie paléo-chrétienne des visions de Perpétue. Bon pasteur trayant une chèvre, dragon gardant l'échelle conduisant au ciel, anges à forte carrure menant à un jardin de paradis planté de lauriers et de roseraies géantes, combat de gladiateurs arbitrés par un être mystérieux, âme de défunt languissant après l'eau vive et le rafraîchissement du salut. Mais peut-être avais-je trop forcé sur l'aspect esthétisant, ou peut-être que les textes étaient trop denses, ou encore culturellement trop éloignés. J'avoue avoir été déçu de la réaction des sœurs, qui d'habitude n'ont pas leur pareil pour saisir la profondeur spirituelle d'un dialogue ou jouer avec âme. Cette fois-ci, le côté émotionnel, pourtant authentique, qui m'avait tant touché dans l'histoire, ne passait pas. Les spectatrices riaient et faisaient des commentaires aux moments les plus pathétiques. Il est vrai qu'il y avait eu pire. On fit voir au Monial le fameux dialogue des Carmélites d'après Bernanos en opéra. Il suscita une réaction sans doute inattendue par le réalisateur. La plupart des religieuses, déconcertées par ce langage artistique, si éloigné de la simplicité de leur vie quotidienne, si enflées, s'étouffaient de rire devant le spectacle d'une prieure censée trépasser en poussant des hurlements dont chaque vocalise était étudiée. À l'évidence, rien de cela ne résonnait en elle comme le rappel d'une carmélite qui meurt. Et pourtant, toutes avaient l'habitude d'être présentes auprès des agonisantes à leurs derniers instants. Il est vrai que la mort naturelle, moment de vérité et de dépouillement entre tous, n'a peut-être pas grand-chose d'artistique. Au sujet du dialogue des carmélites, je me rappelle d'un épisode invraisemblable. C'est sœur Constance. Non, c'est Blanche de la Force. Les voix, enthousiastes et inconnues, s'exclamaient à mon sujet. En contrebas de l'escalier du cloître accessible au public, toute une troupe de comédiens professionnels avait débarqué. Ils étaient venus se renseigner avant de présenter au public d'une grande ville une énième version théâtrale de cette pièce. Mon voile blanc de novice m'avait identifié à leurs yeux à certains personnages de l'histoire. Deux à deux, ils défilaient sous les arcades du cloître comme des courtisans de Louis XIV en tournant sur eux-mêmes avec ébahissement devant le décor qui n'était pas en carton-pâte et les sœurs qui n'étaient pas des figurantes. On aurait dit qu'ils s'adressaient à un public imaginaire alors que j'étais la seule spectatrice. Me prenant au jeu, j'ai fait ma cabotine à mon tour, sans trop me forcer, je l'avoue, et tenant ma robe dans mes mains, comme une princesse de jadis, j'ai descendu le large escalier de pierre avec majesté, en pensant qu'il valait bien les marches du festival de Cannes. Il y eut un appendice à l'affaire, humoristique et invraisemblable. Le trio aussi s'est monté ses spectacles. Alors que, retournés dans leur théâtre, ils allaient prendre un rafraîchissement au bar, les actrices costumées en carmélite croisèrent la route d'une jeune fille qui travaillait sur place. Adolescente, elle avait senti un appel fort à la vie du Carmel, puis, à cause de circonstances mal définies, elle avait pris du recul. Coup de foudre divin. En voyant les actrices, qui devaient avoir à ce moment, apparemment, dans un professionnalisme remarquable, des poses dévotes, elle eut l'impression de rencontrer des carmélites authentiques et le feu sacré se ralluma en elle. Elle finit par entrer dans notre communauté et devait y faire profession solennelle. Beaucoup de pièces et de sketchs ont été joués devant nous au cours de ces années. Elles avaient lieu en général à la salle de communauté, vaste pièce dotée de coulisses et d'un piano. Mais j'ai vu lors de spectacles de plein air des sœurs déguisées en Jeanne d'Arc ou en Sainte Catherine, au milieu du jardin, balayant avec leurs somptueuses traînes moirées ou brodées les aiguilles des pins et les feuilles mortes. C'était encore l'époque où il était rare de visionner des films et où l'on s'investissait dans les préparations. Certes, les actrices avaient le droit de tenir leur texte à la main et d'y jeter un regard à la dérobée. Mais les puristes ou les religieuses dont la mémoire ressemblait à celle de Pic de la Mirandole s'en gardaient bien et mémorisaient soigneusement leur rôle. Le soir des jours de licence, appelé parfois liesse, où une pièce de théâtre a été jouée, ou les soirs de Sainte-Marthe, les plus jeunes religieuses pénètrent dans le réfectoire avec appréhension. Des intrigues se sont nouées en leur absence. Les cabales ont porté sur la décoration de leur place à table. Les moniales au voile blanc devront d'ici peu abandonner leur aura de dramaturge pour aller siéger en essayant de manger leur soupe sans tomber dans le ridicule, qui sur un chameau savamment élaboré et assez haut pour offrir une vue d'ensemble des convives, qui sur un âne au corps constitué d'une vaste ouverture grise et à la tête peinte en trompe-l'œil, qui sur un objet géant dont il aura été question lors des festivités. La solidité de l'ensemble peut être sujette à caution. La chute de l'histoire ne sera peut-être pas celle à laquelle on pense. Les tournois de ping-pong, les jeux de piste, les pique-niques collectifs, les danses d'Israël ou du Vietnam, les poésies, en vers de Mirliton ou pas, la composition de couplets, chants librement composés reprenant parfois des airs connus, la musique et les farces étaient également traditionnellement très encouragés les jours de fête ou de licence. La meilleure farce dont je me souvienne est l'emmaillotage du battant des cloches. La novice sans complexe, qui avait conçu et réalisé l'affaire, nous avait obtenu, en guise de carillon, l'émission d'un hoquet de bronze parfaitement risible. Les cloches, visiblement pas dans leur état normal, toussaient, crachaient, haletaient en ce jour de fête. Espérons que les personnes extérieures à la communauté n'aient rien entendu.